En 1976, quelques mois après avoir publié chez Maison Neuve les œuvres philosophiques et mystiques de Sohravardi, Henri Corbin publie chez Fayard « L'archange empourpré », 15 traités mystiques de Sohravardi, traduits par Corbin du persan et de l'arabe. L'émission que nous allons entendre est un commentaire de quelques-uns de ces 15 traités. Henri Corbin s'entretient ici avec Philippe Nemo. Nous sommes en 1976.
Henri Corbin, vous venez de publier aux éditions Fayard un livre qui porte un fort beau titre et qui s'appelle « L'archange empourpré ». Il n'est pas de vous, mais il est presque de vous, puisque sans vous, il ne serait pas sur nos tables aujourd'hui. Il est d'un mystique et philosophe iranien du XIIe siècle qui s'appelle Sohravardi. Et je voudrais que, d'abord, vous nous expliquiez un peu qui vous êtes, parce que beaucoup de gens vous connaissent, mais pas tout le monde. Et comment se fait-il que, en France, on en vienne à connaître un petit peu l'Iran? Quel itinéraire fut le vôtre pour aboutir jusque-là, étant donné que les derniers occidentaux qui vous ont vu traduire du Heidegger, je crois. Comment passe-t-on de Heidegger, c'est-à-dire de la philosophie, à la mystique iranienne?
Comme vous l'avez dit très bien, ce titre, l'archange empourpré, c'est un titre prestigieux. Je vous avoue que j'ai dû chercher quelque temps pour trouver l'équivalent exact du terme persan qui intitule le traité de Sohravardi qui porte ce nom. Je m'en suis expliqué longuement, donc je n'y insiste pas pour le moment. Pour moi-même, et là je sais très bien que ma chétive personne n'est connue que d'un petit nombre de ceux qui suivent mes travaux, qui ont été mes élèves. Je suis professeur à l'école des hautes études, la direction d'études d'islamisme, et j'ai eu l'honneur de succéder à Massignon il y a déjà maintenant 23 ans. Mais je crois que le côté le plus important de ma vie, c'est le fait que j'ai maintenant passé près d'une trentaine d'années en Iran. C'est donc entre ce vieux pays et moi-même un vieux pacte d'amitié amoureuse que j'ai noué, mais pas seulement au cours de ma carrière de professeur, mais je puis dire dès les premières heures de ma jeunesse de philosophe. Vous avez évoqué tout à l'heure mes premières armes. Comment expliquer que j'ai pu passer de Heidegger à la philosophie et la mystique iranienne? Ce serait là faire toute la confession de ma vie. C'est un peu long. Mais pour un philosophe, seul compte l'itinéraire de sa recherche. Et les particularités géographiques ou linguistiques ne sont que des incidents de parcours. Mais dès l'époque, j'étais déjà orientaliste, iranologue, comme on dit aujourd'hui, et j'avais déjà publié quelques textes et traductions de ce même auteur. Sur cet itinéraire, qui me menait d'abord dans le monde de l'islam, le monde arabe, concurremment aussi le monde de l'Inde, que je me suis retrouvé dans ce monde médian et médiateur par excellence, qui est le monde iranien, et qui est devenu depuis maintenant 30 ou 40 ans, en quelque sorte, ma patrie spirituelle, et qui, je crois, m'a rendu toute l'amitié que je lui ai vouée par le sentiment également d'une adoption à mon égard.
Alors Henri Corbin, vous avez fait connaître un peu l'Iran en France, il était fort mal connu. Vous avez traduit plusieurs textes, plusieurs auteurs iraniens, mais aujourd'hui vous traduisez Sohravardi. Alors est-ce que vous pourriez nous présenter ce personnage du XIIe siècle? Et d'abord, oui. Qu'est-ce que représente le XIIe siècle en Iran par rapport au Moyen-Âge français?
Au XIIe siècle, avec la mort d'Averroès, 1198, s'achève la grande philosophie islamique. C'est après la mort d'Averroès que commencent les choses vraiment intéressantes et qui sont vraiment d'inspiration islamique. Deux grands noms les dominent. C'est le nom du grand philosophe andalou Nourseddin ibn Arabi et c'est son contemporain, Cheikh Abduddin Yahya Sohravardi. Alors, je vais parler de lui en deux mots, il faut que nous le présentions. Pour que ces textes aient quelques résonances chez nos auditeurs. Cheikh Abduddin Yahya Sohravardi, comme son nom l'indique, était originaire de Sohravard. C'est une grande bourgade qui existe encore de nos jours, qui est à la limitrophe de l'Azerbaïdjan. Disons, pratiquement, elle fait partie de l'Azerbaïdjan. Je prononcerai d'ailleurs comme de nos jours, à la manière persane, Azer-Abadgan, c'est-à-dire le pays du Temple du Feu. Il est né vers 1155. Vous voyez donc ce deuxième siècle dont je viens de vous dire maintenant comment il nous apparaît, même pour l'histoire de la philosophie islamique, il est vraiment là, à la partie médiane, et la grande œuvre, la grande pensée de sa vie a été celle-ci, restaurer dans l'Iran islamique la philosophie de la lumière professée par les sages de l'ancienne Perse. C'était un projet d'une audace inouïe, que nous comprenons par sans doute les circonstances de son enfance, mais une vocation. Bon, le secret nous échappe, il l'a dit intrépidement d'ailleurs dans ses livres, c'est cela qui a été le projet de ma vie, et je n'ai pas eu de prédécesseur pour quelque chose comme cela.
L'islam ne pouvait en effet effacer toute trace de la vieille religion iranienne, celle d'Hormazd, le dieu de la lumière, nommé encore Ahura Mazda dans le texte sacré de l'Avesta. Comment ce ravardi opéra-t-il une intégration de la religion de Mahomet à celle de Zoroastre? C'est ce que nous allons voir amplement dans cette émission. Mais disons tout de suite qu'il rapprocha d'abord le prophétisme islamique et l'ancien prophétisme iranien, qui consistait en une transmission ou une descente de la lumière de gloire, Kvarna, venant d'Hormaz, et descendant jusqu'au souverain extatique de l'ancienne Perse, qui à son tour la retransmettait aux hommes. De son côté, la notion islamique de prophétie a pour base la lumière mohammedienne, qui se transmet de prophète en prophète depuis Mahomet. Il devait donc y avoir moyen de concilier ces deux visions de la présence divine. Et dans l'islam, il y a une notion qui est la sakina, qui veut dire la quiétude, la confiance, et le mot vient d'une racine qui signifie demeurer, habiter. Et cette notion de la sakina est elle-même à rapprocher d'une notion hébraïque, la shekhina, qui désigne dans la mystique juive la mystérieuse présence divine au sein du temple. Et ainsi, la sakina désigne en quelque sorte la présence divine dans ce qu'on pourrait appeler le temple de l'âme. Et c'est ainsi que Sohravardi, au XIIe siècle de notre ère, pouvait rapprocher ces deux façons qu'a l'homme de sentir en lui-même habiter la présence divine. Et aussi, Sohravardi rapprocha, et au fond nous allons parler beaucoup plus encore de cela, ce qu'on appelle l'angélologie zoroastrienne, c'est-à-dire cette doctrine des anges, et l'angélologie biblique et coranique qui figure donc dans la Bible et le Coran, et qui elle-même peut être rapprochée de l'angélologie néoplatonicienne. Et cette fois-ci, il s'agit de faire se rapprocher, de faire interférer toujours le Gvarna, la lumière de gloire, cette lumière qui descend du dieu de la lumière, Hormaz, et l'Ishrak. L'Ishrak qui est la notion clé de la doctrine de Sohravardi. Le Gvarna descend d'Hormaz à un premier ange qui est Baman, et de ce premier ange à la hiérarchie complète des 10 anges, dont le dernier est le père de l'humanité. Et cette lumière dont chaque ange investit l'ange qui procède de lui, finit par descendre ainsi jusqu'à l'homme, pourvu que l'homme se tourne à l'Orient, c'est-à-dire au lieu d'où vient la lumière, car Orient signifie précisément le lieu où le soleil se lève. Et toute la mystique sohravardienne va consister à faire en sorte que l'homme opère cette conversion intérieure qui le fait se tourner vers le lieu d'où vient la lumière, c'est-à-dire vers l'Orient.
Pour lui, la recherche philosophique est inséparable d'une expérience spirituelle. Elle doit aboutir, elle doit déboucher sur une expérience mystique. Une recherche philosophique qui n'aboutirait pas à cette expérience spirituelle est une perte de temps. Et une expérience mystique, une expérience spirituelle qui n'aurait pas pour préalable une solide formation philosophique est sûre de battre la campagne. Et le malheureux mystique est exposé à être ce que nous appellerions aujourd'hui un gibier pour psychanalyste.
Alors ceci vous a fait, ne pas regretter vos études de philosophe. Ouais. Parce que souvent on raille les philosophes en disant qu'ils coupent les pattes de mouche en quatre et on oppose à leur doctrine obscure, la grande voix toute simple et toute lumineuse du simple sage. Alors ce n'est pas l'opinion de Sohravardi.
Du tout, vous le voyez. Et je crois que c'est quelque chose qui malheureusement et profondément, en général ignoré, des conceptions de la philosophie que l'on se fait aujourd'hui, et des critiques de la philosophie, que de fois je me dis, en lisant les contestations les plus véhémentes, mon Dieu, si ces jeunes gens avaient vécu quelques mois dans l'intimité d'un Sohravardi, ils verraient que leurs objections sont tombées à l'eau même avant qu'ils ne les formulent. Et c'est pourquoi, voyez-vous, c'est ça même qui a ordonné les deux parties de mon livre, ce recueil de 15 traités de Sohravardi, de ce corpus qui, je croyais, sans précédent, je peux le dire aussi. J'ai appelé la première partie la doctrine du philosophe mystique, où j'ai groupé les textes les plus significatifs de ces grands traités théoriques, qui déjà sont prégnants de doctrine mystique, et où la part de l'iranisme, exemple des souverains extatiques de l'ancien Iran, est considérable. Et la seconde partie qui groupe alors tous les traités proprement mystiques et que j'ai appelé la doctrine devenant événement de l'âme. Et c'est, je crois, quelque chose de capital que ce passage perpétuel de la doctrine du contemplatif du chercheur philosophe qui devient chaque fois l'événement de son âme et l'événement par lequel cette doctrine est appelée à la vie et ne reste pas dans le domaine de l'érudition pure.
Avant d'entrer dans cette œuvre, en ces deux parties et en son itinéraire, est-ce qu'on ne peut pas dire tout de même un mot supplémentaire qui expliquerait peut-être bien des choses sur Sœur Havardi, à savoir la fin de sa vie, qui me paraît extrêmement significative?
Vous faites allusion à la grande tragédie. Je crois qu'il est mort, n'est-ce pas, à 36 ans, mort en martyr de sa cause, et je crois qu'il avait commis l'imprudence de quitter l'Iran pour se rendre en Syrie. C'était un jeune homme intrépide. Il avait passé un certain temps en Anatolie, il avait reçu d'ailleurs un très bon accueil de l'émir Seljoukil de Kharput, il avait vécu à Diyarbakır, et là il avait eu comme collègue des gens dont le nom est resté célèbre, Fakhruddin Razi. Mais il faisait peur un peu à tout le monde par son intrépidité. C'était un jeune homme incapable d'observer cette discipline du Ketman, la discipline de la canne grâce à laquelle l'ésotérisme islamique a pu traverser les siècles. Et alors, il a commis l'imprudence de se rendre à Alep. À Alep, il est devenu très ami avec le fils de Salahuddin, le Saladin des Croisés, et peut-être est-ce là qu'il a enhardi à parler avec trop d'audace, trop ouvertement, des doctrines qu'il professait. On lui a fait un procès, et on lui a reproché d'avoir dit dans ses livres que Dieu pouvait susciter un prophète quand il le voulait. Cela impliquait donc que le prophète de l'islam n'était plus le sceau de la prophétie, le sceau des prophètes. En fait, jamais Sœur Havardi de l'Allier. Mais il y a quelque chose qui se cache là-dessous, c'est l'idée chiite, non pas d'une continuation de la prophétie, mais l'idée de la valayat. En plus de cela, pensons aux circonstances. Il est mort le 29 juillet 1191, d'une manière assez mystérieuse, nous ne pouvons pas le définir. 4 ans auparavant, Salahuddin s'était emparé de Jérusalem. Mais 15 jours avant sa mort, Richard Cœur de Lyon avait débarqué à Saint-Jean d'Arc. Il s'était emparé de Saint-Jean d'Arc. J'ai quelquefois l'impression que Salahuddin a voulu faire expier à Sœur Havardi les malheurs qu'il subissait d'autre part dans sa lutte avec les Francs et aussi tout ce qui provoquait son aversion, tout ce qui, chez Sœur Havardi, pouvait évoquer pour lui la théosophie chiite ou tout ce qui, chez Sœur Havardi, en est connexe, la philosophie de l'ancienne Perse et celle de l'hermétisme. La figure de l'archange empourpré domine tout l'ensemble de ce livre. L'archange empourpré est un autre nom de l'Esprit Saint, qui, dans le Coran, est l'ange Gabriel, qui est à la fois l'ange de la connaissance et l'ange de la révélation. Et parce qu'il est à la fois l'ange de la connaissance et l'ange de la révélation, on n'a jamais connu ce conflit entre la foi et le savoir, entre la philosophie et la théologie, puisque c'est le même ange qui en est la source, le même Esprit Saint. Il est désigné sous le nom persan de Javidan Kharad, qui est l'équivalent exact de Sophia Eterna en latin. Et justement, cela illustre de manière très frappante le symbolisme de la couleur rouge. Il semblerait donc, et je suis tout à fait d'accord, que c'est cette couleur rouge-pourpre qui signale l'entrée en contact des êtres spirituels avec notre monde de ténèbres. L'archange lui-même l'explique fort bien au visionnaire lorsqu'il explique sa couleur en faisant allusion au crépuscule du matin ou au crépuscule du soir. L'importance extraordinaire de ce traité, qui ouvre donc la série des 3 traités que j'ai groupés sous le motif de la rencontre avec l'ange, c'est de nous instruire d'abord sur la personne de cet ange qui est l'Esprit Saint et qui est l'ange de l'humanité. Nous le retrouvons dans 2 autres traités. Il se signale comme un instructeur, comme l'initiateur de son disciple. Il lui apprend comment il va falloir franchir les montagnes qui sont toute la machinerie du cosmos, les sphères des éléments et les sphères planétaires, ensuite les sphères des fixes et la sphère des sphères. Il s'agit de traverser tout cela pour trouver le monde, la cité spirituelle, ce qui dans un autre traité s'appellera le château fort de l'âme. Et alors viennent des images très frappantes, celui de la goutte de baume, que si on maintient la main face au soleil, transpasse au revers de la main, et qui te rend capable alors de faire ce que ce personnage qui tient un si grand rôle aussi dans la mystique et la théosophie mystique de l'islam, celui qu'on appelle Khadir en arabe, qu'on prononce Khazr en persan, et qui est une doublure du prophète Élie, ou qui est le prophète Élie lui-même. On le trouve toujours aux alentours de la source de la vie. Il joue un rôle considérable dans toute cette mystique, un rôle qu'il y aurait lieu de comparer avec également le rôle extraordinaire qu'il joue dans la mystique juive.
Dans l'histoire sainte d'Israël, en effet, Élie partage avec Moïse le privilège d'avoir bénéficié d'une théophanie, c'est-à-dire d'une vision directe de Dieu. Ceci le place, on le comprend, au-dessus des autres prophètes d'Israël. Son histoire nous est contée dans le premier livre des Rois. Il est monté comme Moïse sur la montagne de l'Horeb, c'est-à-dire au Sinaï. Et voici que Yahvé passa, il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, en avant de Yahvé, mais Yahvé n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre, mais Yahvé n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, mais Yahvé n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruit d'une brise légère. Et ici, Dieu parle à Élie. C'est ce privilège qui lui vaut d'être présent avec Moïse à l'ascension du Christ. On comprend que de son côté, la mystique juive lui est réservée une place prépondérante.
Mais quelque chose de très important au cours de cette initiation, c'est l'exégèse, l'herméneutique, dans deux grands épisodes de l'épopée héroïque qu'on trouve dans le Chalamet. Nous trouvons là deux épisodes du Chalamet, celui de le combat de Rostem, l'exposition de Zal, l'enfant Zal dans le désert, qui est nourri et élevé par la cimorgue, et ensuite le combat final de Rostem et d'Esfandiar. Je crois que l'interprétation mystique donnée par Souravardi à ces deux épisodes nous signale quelque chose de capital pour, je dirais, la spiritualité en général, mais spécialement pour l'histoire spirituelle de l'Iran, le devenir spirituel de la culture iranienne. C'est le passage de l'épopée héroïque à l'épopée mystique. C'est quelque chose donc d'essentiel parce que, voyez, ce type de roman spirituel qu'a composé Souravardi, roman spirituel en prose, en persan, qui en 12 ou 15 pages vous raconte tout l'essentiel, a été sans continuateur. Cette idée de la lumière, cette lumière, Souravardi l'identifie, ça la représente comme cette lumière de gloire, tellement importante dans l'Avesta, dans tous les papiers sacrés de l'Iran, celle que dans l'Avesta on appelle le Varna, dans le persan Khore. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il identifie avec celle que désigne en arabe le mot Sakina. Sakina, c'est décrit comme la descente à demeure des lumières divines dans l'âme humaine. Et cette Sakina, qui est la lumière des prophètes, c'est la lumière mahamadienne, il est vraiment très frappant de l'avoir identifié chez ce jeune philosophe qui a voulu ressusciter la philosophie de la lumière des anciens Perses en 12e siècle dans l'Iran islamisé, de l'avoir identifié avec cette lumière de gloire de l'Avesta de l'ancien Iran. Il y a plus. Sakina n'est que le terme arabe équivalent de l'hébreu Shekhina. La Shekhina, c'est la mystérieuse présence divine dans le Saint des Saints du Temple. Il y a donc là un parallélisme étonnant. D'une part, la Shekhina, présence divine dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints du Temple. D'autre part, la Sakina Gvarna, qui est la présence des lumières divines dans l'âme temple. Je crois que c'est deux indications que je signale très brièvement, très fugitivement, sont cependant capitales pour nous orienter vers ce qui fait l'essence de la spiritualité de Souravardi.
Dans cette identification ou ce rapprochement de la lumière et de l'esprit, se montrerait peut-être le plus clairement l'identification ou le rapprochement de l'ancienne religion mazdéenne et de la tradition judéo-islamo-chrétienne.
Oui, et c'est très frappant, c'est que justement, de son œuvre, il résulte ceci, une incorporation de la tradition prophétique de l'ancien Iran à la tradition prophétique judéo-chrétienne. Du vieux prophétisme iranien, la personne de Zoroastre, Zarathoustre, et des prophètes, d'autres prophètes moins connus, incorporés à la tradition scripturaire sémitique des prophètes de la Bible et du Coran. C'est quelque chose de très remarquable qui fait que cette philosophie de la lumière s'incorpore à la philosophie prophétique de l'islam.
Et Sohrawardi en traite de manière assez philosophique, justement.
Ah, je crois que celui qui aura le courage de lire les 550 pages de mon opus s'apercevra que c'est vraiment là une forme de la spiritualité qui a été beaucoup négligée par toutes les choses qui sont de considération courante de nos jours, mais qui peuvent nous apprendre beaucoup et ouvrir à beaucoup une voie qu'ils ne soupçonnaient plus. Le mot Khanga, c'est un terme persan qui désigne en général une loge de soufis, une habitation, un centre de soufis. Ce qu'il y a de très important, c'est qu'il nous est signalé ici qu'une porte s'ouvre vers le désert, c'est-à-dire vers le monde spirituel, le monde de l'ange, l'autre porte vers le monde profane, le monde sensible. Il s'agit de fermer la porte qui ouvre sur le monde sensible pour dégager et permettre à la porte qui ouvre sur la cité spirituelle de s'ouvrir. Le Khanga, vous voyez, devient là l'oratoire intérieur, le temple intérieur, le temple spirituel que l'homme doit gagner, doit retrouver, au centre duquel il doit s'installer pour prendre position et ensuite tenter son pèlerinage, tenter la grande aventure qui va le mener jusqu'au château fort de l'âme. Et alors là, il se trouve, dès qu'il a ouvert cette porte, en présence de cette hiérarchie de sages dont tous gardent un profond silence. Et il pose la question, celui qui est le plus proche de lui, et qui n'est autre, sous un autre nom, sous une autre forme, que l'archange empourpré, qui est tout de nouveau l'ange de l'humanité, l'ange d'Esprit Saint, celui que le philosophe désigne comme l'intelligence agente. Sa première question est de savoir, mais d'où vient-il? D'où venez-vous? Et la réponse est donnée par l'ange, par un terme qui a été très caractéristique, qui a été forgé par Sohrawardi lui-même. C'est Nakhonjan Abad, c'est le pays du nom Ou. Ce pays du nom Ou désigne un pays intermédiaire entre le monde des sens et le monde de l'intelligence pure. Ce monde intermédiaire a pour organe l'imagination. C'est capital, car c'est grâce à ce monde que nous sommes délivrés de cette identification que depuis des siècles nous faisons en Occident entre l'irréel et l'imaginaire. Il s'agit là d'un monde de l'image qui n'est pas l'imaginaire, qui n'est pas l'irréel. Il m'a fallu le désigner aussi d'un terme propre, le monde imaginal. C'est le monde des corps subtils, c'est le huitième climat, c'est le confluent des deux mers. Sohrawardi, tous les philosophes de son école, le désignent par une foule de termes. Il est le pays du nom Ou, parce que il est vraiment un espace. Ce n'est pas Nakhonja qui sera utopie. Nakhonjan Abad, qui est le pays du nom Ou, c'est-à-dire un espace parfaitement réel, mais qui n'a pas d'emplacement dans ce monde-ci, il n'a pas de lieu dans ce monde-ci. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas trouver sur une carte géographique l'itinéraire qui vous permettrait de montrer à votre interlocuteur par où il faut passer pour accéder à ce monde-là.
C'est un climat.
On accepte d'emblée, n'est-ce pas? Oui. Mais personne ne peut, vous ne pouvez pas laisser de traces derrière vous, expliquer comment on y accède. Voilà ce que c'est que Nakhonjan Abad.
C'est un climat dont le doigt, dont l'index ne peut indiquer la
voilà,
route.
Voilà, c'est cela. Et vous voyez donc qu'il est au centre de tous les efforts qui sont faits actuellement par bien de mes collègues philosophes qui ont toute ma sympathie, autour d'une métaphysique de l'imagination. Eh bien, nos philosophes autour de ce thème de Nakhonjan Abad ont à travers les siècles construit une prodigieuse métaphysique de l'imagination. Sohrawardi le dit bien, si vous laissez passer, si vous manquez ce monde intermédiaire, alors ce sont toutes les visions des mystiques, les visions des prophètes, les événements eschatologiques de la résurrection. C'est tout cela qui n'a plus de sens. Ça n'a plus de lieu, parce que, évidemment, si vous voulez concevoir ça au niveau du monde sensible, mais c'est illusoire, vous ne le retrouverez pas. Alors, tout ça passe à l'état d'allégorie ou à l'état de légende. Et c'est notre misère à nous que nous ne sachons plus atteindre autrement que par les voies de la critique historique ou de la critique positiviste, un monde visionnaire dont ont vécu également au Moyen Âge, tous nos mystiques visionnaires ont été familiers avec cet univers. Quand on en a perdu les traces, mon Dieu, je crois qu'on peut repérer certaines étapes fatales. Évidemment, le dualisme cartésien, je crois que ça remonte beaucoup plus haut, peut-être au deuxième concile de Constantinople, lorsque on a décidé que la triade anthropologique, esprit, âme, corps, était superflue et l'on a voulu se contenter de deux termes antithétiques, l'âme ou l'esprit et le corps. À ce moment-là, il n'y avait plus de place pour ce monde intermédiaire et plus de place pour le monde visionnaire. C'est ce monde visionnaire que Sourabardi nous restitue, et vous voyez, c'est pourquoi il a été au centre de la grande aventure philosophique de ma vie.
C'est ce qui permet aux paraboles et aux images d'avoir une valeur.
Exact, exact. Et c'est qu'à ce moment-là, vous voyez que les paraboles sont peut-être les seules histoires qui sont vraies. Que toutes les autres histoires sont des à peu près, sont des choses très vulnérables, tandis que le sens d'une parabole, parce qu'il dépasse le sens de la donnée de fait, de la donnée littérale, est un sens métaphysique et un sens permanent.
Que pensez-vous des façons qu'on a actuellement de réduire l'imaginaire précisément au sensible en disant que c'est une fonction de compensation et de...
Mais je crois que la grande catastrophe est d'autant plus grave. La confusion s'aggrave toujours, on vous parle toujours d'une civilisation de l'image, par exemple. Mais ce n'est pas vrai, l'image dont nous parlons, et dont on dit qu'elle accable, domine notre civilisation, c'est encore l'image du monde sensible, ce n'est pas du tout l'image du monde intermédiaire, l'image du monde visionnaire. Qui est, là, nous aurions toute la théorie de la connaissance visionnaire à évoquer chez nos philosophes, et qui fait de l'imagination elle-même un organe centré, pris entre deux feux, le monde sensible et le monde intelligible. Alors, il faut toute une discipline de l'imagination pour la maintenir. Cette discipline, nous l'avons perdue, puisqu'évidemment, nous avons perdu ce monde intermédiaire. Si on le retrouve sous la conduite de nos spirituels, vous voyez alors comment c'est par l'intermédiaire de l'imagination que le monde intelligible, le monde de l'ange, projette des images métaphysiques, pour les appeler ainsi, dans ce qui s'appelle le sensorium qui peut être à la fois le miroir qui reflète les images projetées du monde sensible, mais également avec la même objectivité qui reflète les images projetées du monde métaphysique.
Oui, il y a toute une philosophie de la vision mystique.
Exact, exact. Je crois que ça nous entraînerait très loin, mais il est important que nous touchions du doigt au moins ce côté essentiel. Nos auditeurs s'apercevront alors de la voie dans laquelle nous les engageons. Et vous voyez, c'est ça qui permet à Sourabardi, au début de ce traité, le bruissement des ailes de Gabriel, de voir devant lui cette hiérarchie, cette rangée de sages. Ben, sinon, c'est de l'allégorie, ça n'a pas de sens. Mais non, il le voit vraiment et il engage le dialogue.
Et ce qui lui est donné de voir, c'est toute la doctrine cosmogonique et théosophique de Sourabardi, la confrérie initiatique des anges, dont chacun engendre et enseigne l'ange de niveau immédiatement inférieur, depuis l'ange le plus proche de Dieu jusqu'à l'ange de l'humanité. Et l'initié comprend aussi le symbolisme des deux ailes de Gabriel, l'aile droite qui est aile de lumière et émettant la lumière, l'aile gauche qui est l'aile des ténèbres. De la première procède l'âme des hommes, de la seconde, le monde de l'illusion. Mais vient le lever du jour, qui est encore ici un jour profane, donc la mystérieuse porte du Hanga donnant sur le monde spirituel se referme, tandis que la porte donnant sur le monde sensible extérieur et agité se rouvre. L'initié est inconsolable.
J'appelle l'attention, parce qu'ils voudront bien apprendre ce traité, c'est justement comment il conçoit cette hiérarchie de sages qui se présente à lui. C'est le dernier qui leur interprète. C'est par le dernier qui est l'archange en pourpre, qui est Gabriel, ange de la connaissance et de la révélation, qui peut avoir connaissance même de tous les autres mondes. Toutes les intelligences qui sont les sages, qui sont au-dessus de lui, représentent des mondes non révélés à l'homme, et que dont l'homme ne peut avoir la révélation que par l'intermédiaire de cet ange, qui est l'archange empourpré, qui est la sagesse éternelle, et qui est l'ange de l'humanité. Et il les a conçus, c'est là la chose très originale, comme formant une confrérie initiatique. Chacun de ces pléraux, chacun de ces mondes de l'ange, est l'élève, le disciple, comme dans une confrérie soufie, de celui qui l'a précédé. Et cela descend donc de degré en degré jusqu'à nous arrivions au dixième, qui est l'archange empourpré. C'est là alors que cette figure prend tout son sens, majestueux et dominant, de la raison spirituelle. C'est que nos âmes, qui sont des verbes mineurs émanant de cet ange, n'ont également lui pour guide spirituel, pour morshed, on dit en persan. Et alors, pourquoi, en effet, donne-t-il à cet archange en pourpré le nom de cheikh, de pir, de directeur spirituel? Un de ses commentateurs fera admirablement remarquer, c'est parce que des Ishraqiyoun, des disciples de Sourabardi, des platoniciens de Perse, donnons-leur ce nom qui figure dans les répertoires, n'ont pas besoin de gourou humain, de cheikh humain. Ils sont directement les élèves de l'ange, et tout l'effort que peut mettre humain sur eux, le seul sens de sa direction, c'est de les amener à cette rencontre de l'ange qui est leur vrai guide spirituel, et le seul qui puisse reconnaître comme étant leur guide. Vous voyez, en deux mots, cette confrérie initiative qui commence dans le ciel, avec des templiers célestes, et qui s'achève finalement dans ces âmes choisies dans la race humaine, et dont l'ange est le guide spirituel, sans qu'ils aient à passer par l'intermédiaire de maîtres humains. Ici, l'ange se montre pourvu de deux ailes, une aile de lumière, une aile de ténèbres. L'aile de lumière est celle dont procèdent nos âmes de lumière, l'aile en ténèbres est celle dont procède le monde de la matière qui nous retient prisonniers. Donc, ça veut dire que l'ange de l'humanité, qui est son guide, qui est son interprète, des mondes supérieurs non révélés, est engagé avec toute l'humanité dans la même aventure. Et dans le même combat, il s'agit de regagner en termes ismaéliens, car tout cet aspect est fort bien connu dans la philosophie ismaélienne, il s'agit de gagner le rang d'un paradis perdu.
Henri Corbin, ce voyage se termine dans le traité qui s'appelle « Récit de l'exil occidental ». Peut-être pourriez-vous préciser pourquoi « occidental » et pourquoi « oriental » Quel sens ont ces deux mots dans l'univers
Exact. Ce ne sont pas les grands symboles qui domine toute la philosophie de Sourabardi. L'Orient, le Mashrek, désigne le monde spirituel. L'Occident désigne l'extrême descente de la procession de l'être et désire le monde de la matière, le monde donc de la nuit. Ce n'a donc pas du tout un sens ethnique, ni géographique, ni raciste, ni politique. Ben, c'est un Orient et un Occident que l'on ne trouve pas sur nos cartes géographiques. Et pour lui, le terme Eshrak, qui signale sa philosophie, Eshrak, c'est le lever de l'astre à l'horizon, c'est l'astre à son orient. Le terme alterne d'ailleurs avec Mashrek, et ses disciples s'appellent justement les orientaux, les Mashrekioun, les Eshrakioun, mais ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui ont ce privilège par le fait qu'ils soient à l'orient géographique. Si les vieux sages iraniens ont le privilège d'être des sages orientaux, c'est parce que leur connaissance était orientale, leur connaissance était échraquée. Il ne suffisait pas d'être né en Iran et d'être un oriental au sens géographique pour être un échraquée. Vous voyez, de nos jours, je crois qu'il y a encore quelques orientaux en ce sens en Occident, et je crains qu'il y ait beaucoup d'occidentaux en Orient. Nous employons tout à l'heure le mot herméneutique au sens d'interprétation spirituelle, je veux dire au sens où c'est le sujet lui-même qui médite son texte et qui devient celui en qui s'accomplit l'histoire qu'il lit. Ce sera d'ailleurs le secret final, lorsque, à la fin du récit, Sourabardi nous dit « Mais c'est moi qu'il s'agit dans cette histoire, c'est moi qui suis le héros de cette histoire. » Alors, vous voyez, tous les versets coraniques qu'il a fallu repérer les uns après les autres, qui partent successivement des prophètes, Abraham, de Noé, de Lot, de Moïse, et Salomon, tour à tour, le voyageur mystique est chacun de ces prophètes et accomplit son voyage par cette série d'identification. Je crois que c'est très important parce que, pour tous ces traités, nous sommes en présence de cette question A. Il ne faut pas les prendre à la lettre, oui. Mais qu'est-ce que c'est que la lettre? Il faut comprendre les sens ésotériques, mais qu'est-ce que c'est que le sens ésotérique? Le sens ésotérique ne consiste absolument pas à faire redescendre au niveau de l'évidence logique et de l'évidence des concepts logiques les données du récit, le drame qui vous est raconté. Le sens ésotérique est intermédiaire. Le sens ésotérique consiste à éprouver justement les concepts au niveau du récit dramatique, c'est ça qui est la doctrine qui devient événement de l'âme, et ensuite à faire se rencontrer ce récit, cette séquence dramatique, au niveau de sa signification métaphysique. Et de nouveau, nous nous trouvons, vous voyez, dans ce qui fait l'essentiel de ce monde intermédiaire, qui est le monde imaginal. le monde où s'accomplissent ou se passent les récits visionnaires, le monde où ont lieu toutes les expériences des mystiques. Voyez, j'appelle encore l'attention sur la finale de ce récit. Le voyageur mystique aborde au Sinaï mystique. Le Sinaï mystique est le lieu, la résidence, l'oratoire de l'ange, qui est de nouveau ici, sous un autre nom, est l'archange empourpré, qui est l'ange de l'humanité, qui est l'Esprit Saint. Et l'ange lui révèle qu'il y a au-dessus d'eux d'autres Sinaï qui surplombent son propre Sinaï. Ce n'est pas autre chose que c'est la hiérarchie des sages, une hiérarchie ascendante, dont nous avions la vision dans le traité qui précède le brisement des ailes de Gabriel. La fin est pathétique, car ce que le voyageur se croit délivré de la prison de Kairaman, s'il en était délivré, ça voudrait dire qu'il a franchi le seuil, il a franchi le seuil de la mort. Et c'est pourquoi l'ange lui dit non, il est absolument nécessaire que tu retournes à la prison de Kairaman, mais désormais, tu pourras venir nous retrouver quand tu le voudras et chaque fois que tu le voudras. C'est en d'autres termes la mise à la disposition de l'initié du chemin qui le mène vers la délivrance.
Et dites-moi, Henri Corbin, si j'osais vous poser la question, quels sont les périls qui nous guettent, nous autres?
Votre question est excellente, je suis heureux d'y répondre. Il ne s'agit en effet pas de tentations, on sent si boucharnel, soit c'est secondaire. Les tentations sont beaucoup plus graves, ce que représente chacune de ces tours dans lesquelles on peut rester enfermé, d'une manière générale, je crois, que c'est ce que nous désignons comme agnosticisme. Et l'agnosticisme, l'antignose, l'agnosie, n'est-ce pas? Que nous, hommes d'Occident, affrontons depuis des générations, que nous portons en nous, et chaque fois que nous croyons l'avoir vaincu, je vois que le combat est à recommencer. Nous avons été tellement ingénieux à nous fermer les portes. Ces portes peuvent s'appeler aujourd'hui sociologie, psychanalyse, linguistique, que sais-je encore. Nous avons multiplié les inventions afin de faire tout ce que nous pouvions éprouver. Toutes les annonces à travers le grillage que nous pouvions avoir de ce monde imaginal et de Nakhon-Jahabad, nous avons fait en sorte que ces annonces ne signifient rien et nous les avons ramenées toujours à des explications par infrastructure ou autre qui fassent que jamais nous ne puissions dépasser la donnée littérale. Je crois que c'est ça le danger.
Faut-il jeter au panier toutes les sciences humaines?
Peut-on identifier sciences divines et sciences humaines? Si nous les identifions, je crois que nous commettons la grande faute de la laïcisation métaphysique radicale. Nous ne retrouverons jamais le chemin perdu. Comment aujourd'hui concevoir ce que c'est que les sciences divines par rapport aux sciences humaines? Nous pourrons en demander l'enseignement à Souravarli, mais je crois que cela dépendrait de notre entretien d'aujourd'hui. J'insisterai sur un texte que nous ne pouvions pas lire, là. Mais se trouve tout à la fin du traité. Lorsque Souravarli nous dit ceci, il nous parle des vrais hommes, des hommes au sens vrai. Et par opposition à ceux des faux champions qui, au premier choc, ont laissé leur existence sur la route de la quête du vrai. Et il dit textuellement ceci, le premier venu qui se met à danser ne rencontre pas pour autant l'extase. C'est la danse qui est le produit de l'état intérieur de l'âme. Ce n'est pas l'état intérieur de l'âme qui est le produit de la danse. Vous voyez, je crois ce que ça veut dire. C'est que la danse mystique n'est pas quelque chose produit pour provoquer l'extase, mais c'est parce qu'il y a cet état extatique intérieur que cet état se traduit par le mouvement de la danse.
Mais alors quand même, la danse n'est pas inutile, elle doit quand même avoir un rôle, non,
mais,
elle entretient.
Voyez, ouais, c'est très peu, c'est le seul passage que je connais de Soravdi où il fait allusion, vous avez fait allusion au Jarvis Tourneur, vous l'avez, il y a un lien, et il n'y a pas de doute. Mais cette chose finale, cette phrase, explicitant bien la signification de la danse mystique, me semble quelque chose qui n'est pas toujours aperçu lorsqu'on pense que la danse est destinée justement à produire cette extase. Il y a trois manières de regarder le ciel. Il y a trois d'astronomie possibles. Vous pouvez la regarder. Regardez le ciel, mon Dieu, comme les animaux le regardent. Vous pouvez le regarder comme les astronomes ou les astrologues le regardent. Et vous pouvez le regarder avec l'œil intérieur, l'œil de la vision intérieure. Vous passez à ce moment-là de l'astronomie physique à l'astronomie spirituelle, aux cieux, aux astres, des cieux spirituels. Eh bien, je crois que pour toute chose, et tout phénomène humain, tout phénomène relevant des sciences humaines dont nous parlions il y a un instant, il y a trois manières de les observer. Ces trois manières, vous voyez, nous les indique fugitivement. Et je crois qu'il y a aussi, il est profondément dans le sens de la spiritualité néoplatonicienne, lorsque les néoplatoniciens proposent, ou quoi, un homme comme Jean Blic, Proclus, je n'ai plus la référence précise en tête, de considérer théologiquement les choses physiques.
Oui.
De considérer théologiquement les choses physiques, vous voyez, donc, se noue à ce moment-là le lien entre sciences divines et sciences humaines, les sciences divines dont nous ne savons plus ce qu'elles sont. Alors, faites-en l'application, considérez la danse et toutes les formes de l'art, et en particulier la musique, en me disant aussi qu'il y a trois manières de considérer, de contempler la danse, comme il y a aussi trois manières de contempler le ciel. Il y a de très frappant dans ces récits et dans d'autres, c'est que Soravardi a vraiment eu le pressentiment de son destin. Il savait le danger de parler, mais il disait, ne pas parler, c'est capituler. Je crois qu'il a refusé de capituler, et c'est là le secret de sa mort en martyr. Ah, le cas de s'éprouver, s'il appartient au monde du jour ou au monde de la nuit.